France Culture.
Les débuts de Max au cinéma, scène de Max Linder, jouée par Max Linder.
Max Linder, 1883-1925, le roi du cinéma. Pauline Maucor, Cécile Lafont.
On est dans un bureau, j'imagine, avec un scénario assez chaud, avec du bois, deux bureaux.
Deux bureaucrates, c'est assez imposant, et dans ce milieu est introduit Max, qui arrive un peu gêné, voilà, il trébuche sur le tapis.
Il tient humblement son chapeau à la main, puis tend sa lettre, qui lui est tout de suite retournée, par un monsieur qui le renvoie vers le deuxième monsieur, voilà. Qui est très occupé.
Parce qu'il parle au téléphone, et du coup, Max, il est obligé d'attendre.
Du coup, il sait plus, il retourne vers le premier monsieur, il est un peu gêné, il connaît pas, en fait.
Doit-il l'interrompre?
Monsieur, je vous donne...
Il retente de donner sa lettre. Ah non, voilà. Tenez,
on l'a
monsieur.
Vu, enfin.
Merci. Il fait pour s'asseoir, il rate la chaise, du coup, il tombe par terre.
Tout gêné se redresse,
mais personne l'a vu. Hein.
Personne l'a vu.
Ouf.
Il joue avec son chapeau, on voit dans ses gestes que...
Toute sa nervosité.
Voilà, ouf.
Avec nonchalance, bon. Il récupère la chaise. Et du
hop
coup...
là, personne l'a vu. Ouais.
Et c'est le moment d'y aller. Il est introduit dans un autre bureau. Merci, monsieur.
Merci, monsieur, au revoir.
En étant très... un peu soumis, mais très, très... Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Alors, c'est l'histoire de ce personnage, Max, qui veut faire du cinéma.
Les élèves de l'école Jacques Lecoq.
Et qui est introduit d'abord dans les bureaux de la maison Pathé, puis qui va passer une audition, et finalement se retrouve, du coup, sur une scène de tournage, à jouer un mari. Et il n'est pas forcément au courant de ce qu'il doit jouer, enfin... Il va se faire un peu surprendre par tout ça.
Parce qu'il se fait frapper ou...
Jeté par la fenêtre.
Jeté par la fenêtre, carrément.
Ah oui, avec son enthousiasme de vouloir faire du cinéma et de vouloir de suivre sa passion, il subit ce que ce monde de l'industrie cinématographique lui amène à faire. Se prendre une assiette sur la tête, une gifle...
Ce film, les débuts de Max au cinématographe, donc il date de 1912.
Laurent Le Forestier, historien du cinéma.
On a typiquement affaire avec ce film à un cas d'espèce de ces scénarios dans lesquels Max Linder mélange des choses qui lui sont arrivées à d'autres choses qui sont beaucoup plus fictionnelles. Et c'est un film qui est très intéressant de ce point de vue-là. Le scénario indique que le jeune Max se présente chez Pathé, donc qui est à l'époque non seulement la plus grande maison de production de films française, mais aussi la plus grande au niveau mondial. Donc vraiment, c'est la compagnie qui écrase tout le marché mondial du cinéma. Donc l'histoire, c'est que Max se présente avec ce billet de recommandation chez Pathé pour être engagé. Donc dans l'histoire, il est censé ne pas être encore connu, être un petit comédien de théâtre qui se présente pour travailler au cinéma. Et le film nous montre en fait l'apprentissage de ce jeune comédien formé plutôt à la déclamation et qui doit s'adapter au cinéma, qui à cette époque-là est un médium très différent du théâtre, beaucoup plus... populaire, pour le dire très vite, et en tout cas jouant sur des ressorts comiques beaucoup plus matériels, concrets, voire triviaux, etc.
On a l'impression qu'il est toujours en retard par rapport à ce qui lui arrive et qu'il essaye de... Il essaye d'être...
De bien faire.
De bien faire, toujours, mais il
n'a pas les codes du milieu et dès la première scène, dès son entrée, en fait, on le voit tout de suite, il trébuche, il est un peu gauche, et on sent sa nervosité et en même temps... Que c'est tout nouveau pour lui.
Oui, il y a un côté clownesque qui apparaît, parce qu'il a très envie de vouloir bien faire, mais il est toujours à côté.
Bon, il y a trois personnages en lui. L'homme privé Gabriel Leviel, le réalisateur, acteur Max Linder, et le personnage Max. Mais ce sont les mêmes, ils sont identiques. C'est-à-dire que quand on voit une photo de Max Linder, on est pas en mesure de dire si c'est un film ou si c'est Max dans la vie, Max Linder dans la vie.
Patrick Desilles, historien.
Donc il y a vraiment une indistinction. Et c'est cette indistinction qui a fini par le miner, par le déprimer, me semble-t-il. Il est très rare quand même qu'un acteur soit identifié à son personnage. Complètement. Donc, il a son itinéraire et même sa vie ont un intérêt sur le cinéma lui-même et sur le, en tout cas sur le cinéma commençant. Il a essuyé les plâtres, en quelque sorte, de cet étrange appareil qui fait qu'on est à la fois dans le réel et dans l'imaginaire en même temps. Et lui, c'est l'incarnation de ça.
C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait de lui une star. On a dit que c'était la première star.
Emmanuel Dreux, historien du cinéma.
C'est la difficulté qu'on aurait à déterminer qui il est vraiment entre le personnage qu'on voit à l'écran, qui s'appelle Max Linder, et l'acteur, réalisateur, qui s'appelle Max Linder. Il y a une espèce de confusion entretenue. À ma connaissance, Linder, à la ville, apparaît toujours comme à l'écran. Quand il va en vacances à Monaco, il y a aussi un film qui témoigne d'aventures, de vacances à Monaco, mais aussi bien à Chamonix, etc. Des Max qui veulent se marier, des Max en ménage, des Max qui divorcent, etc. Il y en a des tonnes, même si le comédien ne s'est marié que très tardivement et avec les conclusions tragiques qu'on connaît. Il y a un Max en convalescence que je trouve très intéressant parce que c'est presque un home movie. Max Linder a été accidenté, je crois qu'il est tombé sur scène, et il est resté handicapé un certain moment, et il est allé se reposer dans sa famille, dans le Bordelais. Et en fait, il se filme en famille, il arrive quelques petites aventures, mais on voit ses parents, sa sœur, son frère, voilà. Et en même temps, le personnage est vraiment en convalescence dans sa famille. On pourrait raconter la biographie de Max Linder à partir des titres des films.
Max prend un bain.
Max patineur.
Max en convalescence.
Les débuts de Max au cinéma.
Max a peur de l'eau.
Les vacances de Max.
Max et Jeanne veulent faire du théâtre.
Max pédicure.
L'amour tenace.
Max et sa belle-mère.
Les vacances de Max.
Max jongleur ou l'obsession de l'équilibre.
Les exploits d'un fou.
Max célibataire.
Max et son rival.
Max cherche une fiancée.
Max et sa belle-mère.
Le mariage de Max.
Max et Jeanne en voyage de noces.
Max aviateur.
Max et son âne.
Max et l'Edelweiss.
Max et la fuite de gaz.
Max et le téléphone.
Max et l'inauguration de la statue.
Max et ses trois mariages.
Max reprend sa liberté.
Max a un... Je suis né le 16 décembre 1883.
Max décoré.
Dès ma plus tendre enfance, ma famille découvrit en moi l'irrésistible vocation du théâtre. En effet, j'allais assez régulièrement à Guignol. Cette vocation se précisa par la suite. Étant au lycée de Bordeaux, je suivis en même temps les cours de déclamation. La même année, je me présentais au baccalauréat et au cours du conservatoire. Je décrochai le premier prix de comédie. Ne parlons pas du baccalauréat. Peu de temps après, je fus engagé au Théâtre des Arts à Bordeaux pour jouer les classiques. Oui, ma chère. Puis enfin Paris. J'entrais à l'Ambigu. Mes qualités d'escrimeur m'avaient signalé pour jouer les drames de cap et d'épée. Pendant 3 ans, j'eus donc l'occasion de me révéler aux foules dans des rôles de figuration complètement muets. De désespoir, j'en étais devenu complètement aphone, et je considérais ma situation artistique comme irrémédiablement compromise. Lorsqu'un beau jour, en rentrant dans les coulisses alors que je venais de jouer ma scène principale qui consistait à apporter une lettre sur un plateau, je reçus le billet suivant. « Monsieur, je vous ai vu. Vous avez 100 000 francs dans l'œil. Je vous en offre le double pour venir tourner dans mon cinématographe. » Signé Pâté Frère.
Le roman de Max.
Le chapeau de Max.
Max a peur des chiens.
Le duel de Max.
Max collectionneur de chaussures.
Max asthmatique.
Comment Max fait le tour du monde.
Max toréador.
Max au couvent.
Les vacances de Max.
Max fait de la photo.
Max jaloux.
Max soldat.
Max et la doctoresse.
Max dans les airs.
Max entre deux feux.
Max décoré.
Max part en Amérique.
Max et le commissaire.
Sa fille, Maud Linder, a raconté que, tout petit, on l'a appelé, ses parents l'appelaient Max. Elle a raconté aussi que c'était lui-même, un jour, qui était arrivé en disant « voilà, je m'appelle Max ». En tout cas, il y avait déjà ce dédoublement qui était... On peut y mettre l'hypothèse qu'il s'est très tôt construit un personnage, en quelque sorte.
Bah déjà, son vrai nom, c'est Gabriel Leviel, hein, le nom de famille. Il a très rapidement pensé à prendre un pseudonyme. Je crois que déjà le mot Max Linder apparaît dans un document lié à la conscription militaire.
Laurent Guido, historien du cinéma.
Donc le nom, assez tôt, il a changé pour Linder. Il y a des anecdotes qui circulent. Et j'ai fait je me suis retrouvé à Bordeaux une fois à discuter avec le public local. Et il y a une hypothèse, ce serait un magasin de chaussures de Bordeaux qui s'appellerait Chez Linder. Et c'est en passant devant qu'il aurait eu l'idée de choisir ce pseudonyme. Et ce qui est intéressant avec ce mot Linder, c'est qu'il a une consonance internationale. Il y a des gens qui prononcent d'ailleurs Linder. Hein, donc ça peut être germanique, ça peut être américain. Ça circule dans le monde entier, Linder. Hein. Nous, à la française, on le prononce Linder. Mais je pense que l'idée de Linder, c'était justement de très tôt d'avoir un nom qui colle à son identité de sportif, de type moderne, qui est en phase un peu avec un nouvel esprit, où notamment les États-Unis d'Amérique hein, incarnent un peu une certaine modernité. Il faut signaler que ses parents, qui étaient donc des exploitants viticoles, avaient été prospectés aux États-Unis. Donc il y a peut-être quelque chose dans la famille qui restait sur ce rapport à l'international et avec un nom, une consonance un peu soit germanique, soit anglo-saxonne.
De petite taille, il se tenait fièrement droit. Déjà coquet, avant de sortir, il lissait soigneusement ses cheveux d'ébène, vérifiait sa chemise, ses petites galoches et ses culottes courtes, pour revenir quelques heures plus tard auprès de sa mère, écorché, déchiré, souvent couvert de boue. « Je fais des expériences », expliquait-il. Et pour ce qui était des expériences, il ne manquait pas d'imagination. Galoper à califourchon sur la vache Blanchette, conduire le cochon du voisin à la rivière pour laver cette pauvre bête, quelle que soit sa trouvaille, il parvenait rapidement à se faire pardonner, car il possédait un don inné, spontané, immense, qui agissait sur tous, le charme. Maud Linder, la jeunesse de Max.
Alors Linder, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu provincial, d'une part. Sa famille est viticulteur dans le Bordelais.
Emmanuel Dreux.
Alors c'est pas non plus une paysannerie pauvre, hein. C'est une paysannerie petite bourgeoise, mais voilà, la terre est très présente comme ça. Et visiblement, il n'a jamais eu d'envie de s'inscrire dans ce milieu ou de poursuivre l'activité de ses parents. Il a rêvé de théâtre très tôt. Il a pris des cours au conservatoire et il a connu la scène à Bordeaux. Petite vedette de scène à Bordeaux, puis ensuite le chemin traditionnel, j'irais, du comédien qui veut réussir, on monte à Paris. C'est là où tout se passe et c'est là où il y a aussi peut-être sans doute le plus de possibilités d'emploi.
Max Linder, comme tous les jeunes, a des envies de Paris, a des envies de folie, etc.
Serge Bromberg, restaurateur de films.
On dit qu'il a parlé à son père, qui lui a dit « je veux devenir acteur ». Son père a dit « il n'en est pas question », il lui aurait donné une gifle, Max serait parti à l'aventure, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça fait pas beaucoup de différence. Comme beaucoup de jeunes qui décident de prendre leur envol, il a pris son envol et il est monté sur Paris. Et là, sur Paris, il a été très rapidement d'ailleurs embauché par Pathé pour des petits rôles. Il n'était pas encore Max. Hein. Le personnage de Max est né en 1908-1909 et ce n'est qu'après qu'on a rebaptisé les premiers films de Max Linder, Max fait ceci ou Max fait cela, pour essayer de capitaliser sur la notoriété de Linder. Mais donc il arrive là, il va faire des petits courts métrage. À nouveau, les acteurs de cinéma n'étaient pas des gens prestigieux à l'époque. On ne connaissait pas leur nom, il n'y avait pas de générique sur les films et on faisait ça parce qu'on avait besoin de manger. Donc, c'était pas du tout quelque chose de prestigieux. Il va tenter le conservatoire à trois reprises, me semble-t-il, et les trois fois, il va être viré. Je crois qu'il a essayé d'aller au cours, au cours d'art dramatique, et il s'est engueulé au bout de la deuxième séance avec son professeur. Enfin, là encore, c'est difficile de trier le bon grain et de l'ivraie, mais globalement, les débuts de Linder n'ont pas été très très simples, et c'est parce qu'il a rencontré cette notoriété assez vite et que Charles Pathé a décidé d'en faire l'une de ses vedettes, comme on disait à l'époque, que Linder est tout de suite devenu quelqu'un de formidable. Sinon, ce serait comme André Dide ou Prince Rigaudin, vous ne connaîtriez même pas son nom. Alors qu'à l'époque, ils étaient pratiquement aussi célèbres que Max Linder.
Contrairement au théâtre où on veut se faire un nom, au cinéma, on reste anonyme. Voilà, les comédiens ne sont jamais nommés dans les génériques, il n'y a pas de générique, dans ces années-là, 1905, 1906. Voilà, alors, ce que je trouve intéressant dans son parcours, c'est comment de cette envie comme ça de poursuivre une carrière de comédien, avec souvent dans ses ces envies-là, celui d'être un comédien reconnu. C'est comment il est passé du statut de figurant ou de second rôle au théâtre au statut de star de cinéma.
Et la salle d'audition, avec des affiches de cinéma au mur.
Une salle
le réalisateur s'installe.
Hop.
Il étend un papier.
Allez-y, installez-vous.
À Max Linder.
Dites-moi quelque chose. Allez-y, dites-moi cette phrase-là. Voilà, c'est très bien, cette phrase, ouais.
Ah oui, d'accord, cette phrase. Bon, très bien, j'y vais.
Et Max déclame avec beaucoup de cœur et...
Non, mais excusez-moi, là, ça va pas du tout, en fait.
Ça va pas avec...
Articulez plus,
avec ce geste. D'accord.
Allez-y, dansez maintenant, dansez, oui. Montrez-moi comment vous dansez.
Il va prendre une chaise, du coup, et...
Comme partenaire.
Oui, voilà, c'est son partenaire de danse. Et il fait un demi-tango.
Il est très appliqué, il essaie vraiment de bien faire.
Oui, oui, oui.
Mais pour autant, il paraît tout gauche, comme ça, avec sa chaise.
Mais il est trop...
Il faut faire une cascade.
Une roulade.
Alors, il tape le sol du bout des doigts.
Il se prépare, mais il est convaincu. Allez, hop là.
Enfin, bon...
Une roulade, voilà, bien entendu.
On a vu meilleure roulade, honnêtement.
Peut-être on peut commencer par la silhouette, ce qu'on appelle le dandy des 5 o'clock. C'est-à-dire, c'est un jeune homme qui se distingue d'abord par l'élégance, et donc c'est... la redingote, le haut de forme, l'habit, les guêtres, les gants. Voilà, il y a toute la panoplie est là. Il y a beaucoup de moments dans les films où il s'habille, il ajuste et il vérifie l'apparence qu'est la sienne. Donc on pourrait dire qu'il est tout dans l'apparence, et en même temps, derrière cette apparence du personnage dans les films, cette apparence voulue, parfaite, c'est par là que passe ce qu'on pourrait appeler la présence de l'acteur et la présence du personnage comique. Et quand je parle de sa présence, c'est qu'elle se révèle comme ça dans justement un geste de vérification de son apparence. C'est paradoxal, mais c'est ça qui est intéressant. Avant de sonner à la porte pour entrer quelque part, il vérifie dans le miroir de cette porte que tout est bien comme il faut. Il y a même un geste inouï, enfin, que je trouve un des plus beaux gags de Linder, c'est qu'il est face au miroir, comme ça, miroir en pied, et il se vérifie de face, comme ça, il se vérifie de chaque côté, et à un moment, il tourne sur lui-même comme pour se vérifier de dos, c'est-à-dire comment suis-je de dos, sauf que c'est impossible à moins d'avoir un miroir en miroir, et donc il fait plusieurs fois le tour de lui-même, comme ça, comme à la poursuite de son apparence de dos qu'il ne va pas parvenir à pouvoir confirmer.
Il est tout petit. Il a un jeu de double talonnette. Je pense qu'il y a un petit complexe là-dessus, forcément. Dès qu'il est apparu sur une scène au théâtre, on lui a tout de suite dit, alors qu'il rêvait de tragédie, que ce n'était pas la peine d'y songer. Et puis il a une petite moustache. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai adapté le livre au théâtre et on l'a joué au théâtre du Rond-Point. Et c'est Jérémy Lopez qui a joué Max. Et il s'est fait une petite moustache. Et Jérémy a une passion, lui aussi, pour Patrick Devers. Mais à partir du moment où je l'ai vu avec la moustache, je ne voyais plus que Patrick Devers. Je trouve qu'en plus, le regard de Max est presque globuleux. Enfin, il a les yeux très grands. Un dessous un peu charbonneux comme ça. Il navigue entre l'enfant rêveur et l'inquiétant, quoi.
Alors, ces questions de critères physiques de beauté, évidemment, ils sont relatifs. Ils sont relatifs aux époques. Notamment, à l'époque de Max Linder, vous aviez des corps féminins, mais surtout corps masculins, très différents des normes d'aujourd'hui, hein. On acceptait, par exemple, des corps beaucoup plus massifs, des visages moins fins, etc., qu'aujourd'hui, pour les critères masculins. Mais Linder, je dirais, il incarne précisément un modèle assez moderne. Tout ce qu'on peut dire sur Max, qui pratique beaucoup le sport, ça le met en avant avec un physique, effectivement, beaucoup plus proche des critères de beauté qui vont dominer dans les années qui vont suivre.
Il remet un peu ses cheveux,
Le réalisateur l'installe pour la dernière épreuve.
Et vlan, le fil, une gifle.
Il fait Max. Il n'était pas prêt.
Il commence à pleurer comme un petit enfant. Il n'a pas compris pourquoi on lui foutait une gifle. Et je sais pas s'il reste, s'il part. Et bon, il a vraiment envie. Il a vraiment envie apparemment de ce, non, ce travail. Donc oui, il est prêt à tout pour rester.
Oui. Vas-y.
Non, pas d'autre.
Et voilà. Et il se prend la gifle.
Il se serre la main.
Toujours poli, toujours gentil, mais avec
la douleur. Ouais, la douleur.
Il a la main sur la joue et il fait des courbettes.
Merci.
Puis se retire.
C'est une espèce de bon gendre, quoi, qu'on recommanderait pour une alliance sécurisante. Et,
a priori.
A priori. Après, les coutures pètent assez rapidement. Et puis, il y a le petit bourgeois très, très soucieux de ses boutons de manchette et de sa mise. Mais là où c'est rigolo, c'est que une fois qu'il a présenté ça, après il entre dans une centrifugeuse, dans un tambour de machine à laver terrible qui va se charger de le faire entrer dans un tourbillon dont il sortira soit changé, soit complètement essoré. Quoi. Donc on passe à la moulinette, un cliché bourgeois. Donc c'est pas un comique convenu. C'est un comique un peu de subversion des valeurs admises.
Et c'est vrai que tout du long, tout pendant la scène des bureaux, il remet toujours un peu en place ses cheveux et on sent qu'il s'est apprêté, qu'il a fait en sorte d'être bien habillé pour ses entretiens. Il veut vraiment bien paraître et il tient à cette image-là. Mmh. Et c'est vrai que du coup, à la fin, son image est complètement renversée parce qu'il finit trempé jusqu'aux os. Mmh. Et il est justement dans un côté très pathétique, alors que c'est un personnage qui se force à rester élégant et qui ne l'est plus.
On était d'accord de dire que c'était une solitude qu'il porte. Et c'est pas le burlesque avec des grosses plagues, avec des grosses cascades, mais c'est assez sensible dans ce qu'il porte comme scène. Par exemple, quand il tombe parce qu'il trouve pas il rate la chaise. C'est sensible la manière qu'il utilise pour traiter cette scène, parce que c'est pas la grosse shoot qu'il fait, mais c'est lui qui tombe et il essaye de se rattraper et personne n'a vu. Du coup, discrètement, il essaye d'être bien, de bien faire dans ce lieu, parce qu'on voit qu'il veut bien, qu'il a cet enthousiasme d'être bien vu. Mais il n'a pas, comme on a dit, le code. Et du coup, c'est bien construit, son côté sensible, clownesque.
Une des dimensions clés du succès de Linder,
Laurent Le Forestier,
c'est que c'est un acteur comique, mais c'est un acteur comique qui arrive au moment où l'industrie veut produire un type de film un peu plus, à la fois plus familial, plus grand public, mais en jouant notamment dans le comique, moins sur des ressorts un peu corporels, vous voyez, grotesques, physiques, mais aussi vers des ressorts plus dramatiques, psychologiques, tout en restant humoristique. Donc des comédies plutôt que du comique, vous voyez, quelque chose comme ça. Une comédie romantique plutôt que de la farce. Et Linder, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très fort dans les deux. Il a à la fois une dimension de comique corporelle, qui va même, dans certains cas, jusqu'à du grotesque, hein, bas du corps, jeu sur des choses un peu scatologiques, et en même temps, et c'est là où je voulais en venir, par cette élégance, par cette beauté physique, c'est comme ça qu'il était en tout cas reconnu à l'époque, il se distingue des autres comiques, et donc c'est énormément sur cette dimension de séducteur, de personnages charmants qui attirent les femmes. Et alors il y a avec toutes les variantes, hein, il y a quelquefois il se prend des râteaux, quelquefois et ça fait partie de l'humour, quelquefois il est jaloux, enfin voilà, vous avez toutes les variantes, mais il est tout à fait, c'est vraiment quelque chose qui est très fondateur de son succès, c'est ce rapport aux femmes. Voilà, donc ça c'est quand même une dimension qu'il faut noter, et c'est aussi un signe de modernité, ça, le flirt, la séduction dans la rue. C'est vraiment un nouvel univers, une nouvelle sociabilité qui naît.
Donc, au moment du tournage, les acteurs et actrices se font briefer par le réalisateur.
On voit que lui n'a pas trop l'habitude, il demande, je vais par là, d'accord.
Donc on a deux femmes, une plus âgée et une plus jeune, et elles sont lancées dans une forme de dispute qui est la scène.
Ils sont à table, du coup ils attendent qu'il revienne.
Donc Max joue le mari qui est...
il demande, c'est maintenant le moment de rentrer.
Il rentre.
Oui.
Et...
il rentre.
Et voilà, apparemment il...
il s'excuse, pardon.
Non, mais il a... il essaie de s'expliquer, mais elle ne lui laisse aucune chance. Elle rassoit sur la chaise.
Non, mais c'était au
Max
but.
Et il se prend une gifle.
Il ne comprend pas, il a la tête sur la tête.
C'est pas dans la scène.
Ah, ça s'accélère. Elle le jette, elles vont le jeter par la fenêtre. Et plan, il tombe par terre.
Je pense que le milieu dont il est issu et celui qu'il découvre, alors d'abord à Bordeaux et ensuite à Paris, n'est pas tout à fait le même. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des codes qui sont sans doute pas les siens. Et c'est ce qui est intéressant dans son cinéma, c'est comment le personnage qui usurpe un peu sa place là où il s'introduit, en usurpant, il joue.
Emmanuel Dreux.
Il joue à être autre chose. Et c'est là où la critique se situe. C'est-à-dire, il essaye de faire comme les autres, dans les milieux dans lesquels il essaie de s'introduire, et il n'y parvient pas tout à fait. Voilà, il est un peu pas tout à fait à sa place. Il a toute l'apparence d'un dandy, mais ça n'en est pas un. C'est un vagabond. Il inverse la formule de Chaplin, le vagabond qui néanmoins reste un dandy, en toutes circonstances. C'est l'inverse. Voilà, il y a une surenchère, je dirais, de confort, de possibilités, de contentement de soi dans les personnages qu'il a affrontés. Il faut voir le bourgeois qui attend le pédicure. Voilà, genre, il y a quand même quelqu'un, il s'installe confortablement et il lit son journal pendant que l'autre opère sans jamais le regarder. Voilà, bon, c'est un confort aussi un peu ridicule. Qui a les moyens d'aller chez le pédicure à l'époque, sauf ce milieu-là. Donc le but, c'est de montrer ça au public de cinéma, qui n'est pas un public seulement petit bourgeois, qui est un public très populaire, et qui se marre en voyant déjà un pied, d'homme, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du ridicule, et puis les soins que Max Linder, le personnage Max Linder, s'évertue à donner à ce pied. Voilà, on aime bien rire de soi-même et en même temps rire de un peu plus que soi, là où s'installe Linder, en gros, comme usurpateur. C'est là où la critique prend forme d'une certaine façon.
Max Linder continue sa tournée triomphale en Russie. Le sympathique artiste vient d'arriver à Odessa, où le public, comme à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ne lui ménage pas les ovations les plus extraordinaires. Max Linder trouve en Russie les plus étonnants succès de sa carrière, et aussi les plus fructueux, et ce n'est pas peu dire. Mais il faut sur ce point rester discret. Notre excellent ami ne perd donc point son temps. Il moissonne là-bas à plein bras les lauriers et les roubles. Il tourne encore une série de films sensationnels qui feront la joie de tous les cinémas du monde. On en reparlera. Comédia, 1er janvier 1914.
Ce qui, de fait, ancre encore davantage Max Linder dans la modernité.
Laurent Le Forestier.
C'est que il a su utiliser, et là encore sans doute le premier, pour ce que j'en sais, de manière assez extraordinaire, les médias à son avantage pour se créer une image. Et il a sans doute senti beaucoup mieux que d'autres que un des traits de la modernité qui commence à s'imposer au début du XXe siècle, ça repose notamment sur le brouillage entre, on pourrait dire, l'être et sa représentation, entre la personne et l'image que l'on renvoie. C'est-à-dire que les médias sont aussi là pour créer des images, pour donner à aimer, désirer des images. Et ça, il l'a compris très tôt. Et donc, pour en donner quelques exemples rapides, en 1908, donc Linder est déjà comédien de cinéma depuis 2-3 ans. Il est parallèlement comédien au théâtre, notamment théâtre de boulevard, mais comédien qui a des petits rôles pas forcément très appréciés par la critique théâtrale. Donc c'est pas un comédien qui est connu en 1908 ni au cinéma, ni au théâtre. Et donc, il se fait éreinter par la critique en avril 1908. Hein, on a des traces de ça dans la presse, notamment une publication qui s'appelle Comédia, qui est vraiment une publication très importante pour ce qui concerne la culture et le théâtre en particulier. Et donc, on dit, voilà, dans tel rôle, il y a un petit comédien qui a cette ligne de dialogue et qui ne brille pas particulièrement. Et donc, il se fait plutôt éreinter. Et là, il a une réaction assez extraordinaire. C'est que un mois plus tard, il se pointe à la rédaction pour discuter avec le rédacteur en chef, et pas tellement pour le prendre à partie en disant voilà qu'est-ce que vous avez écrit sur moi, etc., mais pour lui dire je vais lancer un grand concours d'escrime pour les comédiens de théâtre, une sorte de challenge des artistes, c'est comme ça qu'il appelle ça. Et donc ça a lieu la semaine prochaine. Est-ce que votre revue veut en quelque sorte sponsoriser, participer à cet événement? En gros, il crée le buzz, quoi, comme on dirait aujourd'hui, mais véritablement. Et donc, une semaine plus tard, il y a une page dans Comédia qui annonce le résultat du challenge. Il se trouve que Linder est un très bon épéiste. Et donc, il gagne ce challenge et il a droit à une pleine page dans la presse. Et il ne s'arrête pas là. Il voit qu'il a mis un pied dans la mécanique médiatique, si je puis dire, et donc il va essayer de l'alimenter en envoyant régulièrement des dépêches que, de toute évidence, il écrit ou quelqu'un écrit pour lui et qui annonce des choses assez surprenantes, étonnantes, en tout cas suffisamment pour qu'elles soient publiées régulièrement. Donc on annonce par exemple qu'un film de lui qui est passé en Hongrie a ébahi une jeune princesse qui est tombée amoureuse de lui et qui lui a envoyé une demande en mariage. Voilà, dépêche qu'on voit dans Comédia, qui de toute évidence est inventée, en tout cas il n'y a pas eu de suite. Quelques semaines plus tard, nouvelle dépêche où on annonce que attention, Max Linder va se battre en duel avec un autre grand comédien de boulevard de cette époque-là. Puis, deux jours plus tard, le comédien en question, Max Derli, annonce que non, il s'entend très bien, c'est sans doute une fausse information. Donc il y a déjà quelque chose qui nous dit qu'effectivement, on est dans une mécanique médiatique construite par Max Linder. Ça l'amène dès la deuxième partie 1908 et plus encore 1909, avant même que la série Max soit lancée, qui est plutôt 1910. Il fait des films dont les titres ne comportent pas le nom de Max, mais en revanche, sur les affiches, de manière systématique, il fait écrire donc le titre du film, en dessous, scène écrite par Max Linder, et tout en bas, scène jouée par Max Linder du Théâtre des Variétés. Et donc, il faut s'imaginer que dans les principales villes de France où on passe des films pâtés, dont je redis que c'est la première maison de production, c'est-à-dire celle qui domine outrageusement le marché français, dans toutes ces villes, on voit plein d'affiches avec le nom de Max Linder, et ces affiches représentent le plus souvent le personnage de Max lui-même. Ce qui veut dire que bien que les films ne soient pas signés, il n'y a pas de générique en 1909, on ne sait pas qui a réalisé, on ne sait même pas qui joue dedans, très tôt, il y a une association qui s'opère auprès du public entre ces films et le personnage de Max Linder. Et donc c'est dans un deuxième temps, une fois que cette popularité s'est construite, grâce à l'affiche, donc encore une fois, grâce à un autre support médiatique qu'il a parfaitement maîtrisé, que est créée la série Max.
Au pays des Hidalgo, Barcelone en fièvre. Une grosse émotion règne actuellement dans la capitale de la Catalogne, à la suite de la venue de Max Linder dans les murs de l'antique cité. Accueil enthousiaste, ovation, banquet monstre au grand hôtel Tibidabo. Représentation de gala où Max lui-même joue son propre honneur, rien n'y manque, absolument rien. Et si notre sympathique ami n'est pas content, c'est qu'il sera rudement difficile. Heureux Max Linder. Ciné-Journal, 21 septembre 1912.
Linder, donc, il a été lancé par la firme de production Pathé. Et il faut rappeler que Pathé, à l'époque, au début du XXe siècle, c'est la première société mondiale.
Laurent Guido.
C'est-à-dire, même aux États-Unis, les trois quarts des films qui étaient montrés étaient des films français et des films de Pathé. et dans le reste du monde également. Et c'est la Première Guerre mondiale qui va transformer complètement cette prépondérance française sur le marché international. Voilà. Et ils ne l'ont pas regagné depuis, au profit évidemment des Américains, du cinéma américain. Et donc Linder a été lancé par Pathé, et il fait partie des toutes premières vedettes que Pathé a choisi de mettre en avant. En tout cas, ça a pris. Ça a pris au Brésil, ça a pris au Japon, et ça a pris aux États-Unis, bien sûr, et dans tout le reste de l'Europe. Et donc, il y a un premier effet, c'est qu'il y a une promotion et quelque chose qui, dans la figure de Linder, marque, quoi. C'est vrai que Max Linder, l'émergence de Linder en tant que star, et on peut vraiment utiliser le mot, hein, une grande vedette, et une vedette internationale, elle s'est révélée tout à fait importante. Et effectivement, fondatrice dans un sens où il est probablement l'une des premières figures marquantes de ce vedettariat à l'échelle internationale.
Il y a aussi des témoignages qui raconte que souvent Linder, quand il se déplace, que ça soit en vacances ou pour présenter tel ou tel film,
Emmanuel Dreux,
il possède un cinéma sur les boulevards, donc c'est un personnage public très connu. En fait, il y a souvent un opérateur et une caméra, avec cette idée que tout est possible pour en faire un film. On le vérifie avec Max en convalescence, mais on peut le vérifier dans certains plans de Max à Monaco, par exemple, où on ne sait pas trop à qui on a affaire. Est-ce que c'est Max Linder, l'acteur en vacances, ou est-ce que c'est Max Linder, personnage, qui joue à être en vacances et auquel il arrive quelques aventures?
C'est-à-dire que l'opérateur, avec sa caméra, le filme, lui, dans
sa vraie vie. Alors, ça a été rapporté, on voit ça dans les échos de la presse, voilà, Max Linder qui ne se déplace jamais sans son caméraman.
Et là, elles prennent le matelas, les deux femmes prennent le matelas et jettent le matelas par la fenêtre sur Max.
Dans la rue, on voit le caméraman et le réalisateur.
Donc, il y a une mise en abîme du cinéma.
Elles prennent la table, toutes les deux, et le jettent également par la fenêtre.
Max se prend la table, il retombe par terre.
Une scène avec des coupures.
Il essaie de se relever.
On voit l'intérieur.
À chaque fois qu'il essaie de se relever, un nouvel objet tombe. Et là, c'est l'armoire. Paf!
Les meubles.
Et toujours le réalisateur qui tourne avec le caméraman.
Ouais, dehors.
Max essaie de
tant bien que mal de se relever. Là, il y a un autre monsieur qui arrive. Bah, peut-être un
boucher. Non, mais vous pouvez pas faire attention à ce que vous faites. Tenez, blanc, une gifle, paf.
Et c'est la bagarre.
Il tombe par terre en roulant. Oui.
Et le réalisateur, mais non, mais c'est pas du tout prévu. Mais qu'est-ce qui se passe?
Mais attendez, revenez.
On les voit rouler par terre et on voit un vélo arriver et les prendre dedans. Et du coup, le monsieur au vélo, il tombe.
Le vélo, il est pas content.
Il récupère son vélo.
Qu'est-ce que c'est?
Il tombe nez à nez avec le réalisateur et le caméraman qui leur courent après.
Excusez-moi, est-ce que vous avez pas vu le vélo?
Oui, venez, c'est par là.
Ah, ils sont là-bas.
Par ici, vite.
Le roulet-boulet continue dans la rue.
Et là, il y a un agent de nettoyage de la rue qui essaie de les séparer avec le tuyau d'arrosage. Non, mais c'est pas bientôt fini, là.
Du coup, Max, il se prend tout l'eau sur lui.
Ce qui est intéressant, c'est cette confusion immédiatement, et ça c'est quelque chose de fondateur effectivement pour le vedettariat, c'est cette confusion entre le privé et le public. C'est-à-dire qu'il est sportif dans la vie privée, on va dire, mais en même temps, il y a une confusion immédiate qui se produit avec ce qui se joue dans les films. Et donc, le personnage de Max dans les films est un peu aussi ce Max Linder dont on entend parler pour ses exploits sportifs. Et ça s'est traduit par exemple par des tournages. Il y a un film de Pathé en 1908 qui s'appelle « Le voleur mondain », par exemple, qui est organisé pendant une fête publique dans laquelle il y a des performances sportives, dans un vélodrome à Paris. Et Max apparaît subitement, le public n'était pas prévenu, et il se met à participer à différentes épreuves sportives en jouant une scène où il est poursuivi. Et en fait, cette scène va être filmée en direct devant le public, enfin en direct par plusieurs caméras, et ou plutôt sous une forme de plusieurs moments comme ça, un peu improvisés, voilà, c'est ça que je voulais dire, devant le public qui le reconnaît, qui du coup apparaît aussi dans le film. Et ces scènes-là, il participe à une épreuve de vélo, une course, peut-être une natation, quelque chose comme ça, et il finit par partir en dirigeable. Et la scène se retrouve dans un film où il joue un personnage de voleur qui finit par être poursuivi, etc. Vous voyez, c'est pour ça que c'est assez important d'une certaine manière, parce que ça nous amène à un moment où on voit bien que le vedettariat se construit sur ce qu'on appelle des personas, vous voyez, des personas médiatiques, et qui jouent précisément sur la frontière entre le réel et l'imaginaire. Autre exemple de cette confusion, il se produit aussi sur scène. Mais il se produit sur scène en tant aussi qu'acteur qui a été renommé, dont la renommée a cru avec le cinéma. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le cinéma qui l'a établi comme vedette. Et dès lors, il aime bien revenir vers ce théâtre où il n'était pas très connu au départ. Et donc monter des spectacles où il apparaît en tant que vedette, etc. Et donc, souvent dans ce cadre de la scène et du théâtre, il va proposer des spectacles mi-cinématographiques, mi-théâtraux. Ça consistait en des spectacles hybrides, on pourrait dire. C'est-à-dire que ça commence, vous avez le public s'impatiente, on a annoncé Max Linder, il n'est pas là, le public se demande ce qui se passe, il y a quelqu'un qui vient sur scène s'excuser ou excuser pour le compte de l'organisation, Max Linder a du retard. Et là, les rideaux se s'ouvrent et on voit un écran sur lequel un film est projeté. Et dans ce film, on voit Max Linder qui, supposément au même moment, est stressé, on lui téléphone depuis la salle, et il sur l'écran, on le voit stressé, réalisant qu'il a en fait le rendez-vous et qu'il doit se retrouver dans la salle en question. Et ensuite, on le voit courir à travers la ville, justement, de nouveau, prouesse sportive, performance, on le voit, et tout ça a été monté à l'avance, mais on a l'impression que ça se passe un peu au même temps, vous voyez, et en fait, il s'arrange toujours pour finir par apparaître en rappel, par exemple, sur le toit. Dans le film, on le voit prendre un dirigeable, et puis on le voit descendre depuis le toit de la salle. C'est quelque chose qu'il a fait dans plusieurs salles, à Paris et dans le monde, hein, à Barcelone, à Moscou, dans plein de pays. Et donc, voilà, un spectacle hybride qui finit en live. C'est-à-dire qu'il apparaît en chair et en os dans la salle. Et c'est comme s'il sortait finalement de l'écran et qu'il apparaissait en réalité devant le public.
Il a été évidemment très célèbre de 1905 à disons 1914. 1914, évidemment, la guerre arrête l'industrie du cinéma en France et du coup, elle arrête la carrière française de Max Linder.
Serge Bromberg.
Et à ce moment-là, on lui propose de prendre la place de Charlie Chaplin parce que Chaplin a mis une fin au contrat qu'il avait avec une société de Chicago qui s'appelait Essanay. Et donc, Essanay cherchait une vedette pour remplacer Chaplin. Et donc, ils appellent Linder. Linder dit d'accord. Linder va partir aux États-Unis avec un contrat de 12 films.
Quand il part aux États-Unis, il fait 3 films dans le cadre de ce contrat de 1917. Le premier, c'est Max qui va en Amérique, sur le bateau. Voilà, ça en dit long, en fait, c'est la traversée, en fait. Et d'une certaine façon, c'est pour mieux arriver sur le marché américain comme l'acteur français très connu qu'il est, qui va désormais faire sa carrière aux États-Unis.
Au bout de 3 films, ils vont arrêter le massacre, les films ne marchent pas. Alors Linder va dire « j'étais malade, je suis revenu », etc. En fait, fondamentalement, c'est un échec. Et il revient en France avec l'échec marqué sur son visage. Et après, c'est ses amis américains qu'il avait rencontrés en 1917 qui vont lui tendre la main et lui dire « écoute, viens en Amérique, viens tourner des films ». Et là, il va effectivement repartir en Amérique et tourner 3 films absolument formidables entre 1920 et 1922. Donc, « 7 Years Bad Luck », »,« 7 ans de malheur »,« Be My Wife »,« Soyez ma femme » et « The Three Must Get Theirs », »,« Les 3 mousquetaires ».
Charlie Chaplin, que je n'avais pas vu depuis 2 ans, est toujours l'affectueux camarade que j'avais quitté. Il est venu me rendre visite à l'hôtel, dès le lendemain de mon arrivée. Aussi, suivant le protocole, ai-je été lui rendre sa visite dans les 24 heures.
Sans doute que Chaplin, il l'a dit, a vu Linder au cinéma. Voilà. Mais ensuite, la rencontre, elle se fait en 1917. Et puis ensuite, quand il est retourné aux États-Unis après un semi-échec en France, à partir de 1920, 21-22, où il a tourné à Hollywood 3 films, là, ils se fréquentent vraiment beaucoup. Voilà, il y a même, on les voit souvent ensemble, il y a une séquence d'actualité comme ça, où on les voit s'imiter l'un l'autre. Et en même temps, dans leur façon d'imiter l'autre, chacun ajoute un geste à l'imitation. Chaplin ouvre grand les bras, met la main sur le cœur, pose un genou à terre comme s'il faisait une déclaration. Donc, il imite Linder, une déclaration d'amour, comme ça. Et Linder ajoute à cette imitation de lui-même le baiser qu'il vole à la Dulcinée. Il embrasse Chaplin, comme ça.
Charlot avait convoqué les photographes des principaux journaux cinématographiques. Et nous avons ensemble affronté le classique « Ne bougeons plus ». Mais comme c'est difficile, pour deux artistes cinématographiques dans le mouvement, de rester immobile quelques secondes. Max Linder, février 1920.
Il rentre en France avec un projet très français, pour le coup, et je dirais même européen, parce qu'après la guerre, il y a quelque chose qui se reconstruit d'une coopération comme ça. Donc toujours ce projet de lutter contre la concurrence américaine, voilà, parce que la roue a tourné. Et donc de développer une société de distribution et des sociétés de production qui fassent des films réellement français, européens. Donc il lance un appel comme ça aux auteurs. Il y a un génie français. Vous allez fournir les scénarios et nous, on va construire la machine industrielle qui permettra de les tourner pour pouvoir lutter contre le cinéma américain qui a envahi nos écrans.
Et Linder va se battre, il va être reconnu, il va être embarqué, il va devenir président de la Société des auteurs, la SACD, il va, enfin, plein de choses. Mais en réalité, tout ça, ça le rend pas riche comme Douglas Fairbanks ou comme Mary Pickford ou comme Chaplin. Et du coup, il va vivre ça comme un échec. Alors, il va compenser ça en montant son cinéma. Il installe un cinéma, il va construire un cinéma. C'est quelque chose de vraiment très engageant et très déterminant. Mais au fond, il est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a de l'argent quand même, mais qui n'a plus la jeunesse.
Il est revenu des États-Unis.
Patrick Desilles.
Et il est dans une station de sport d'hiver qui est sans doute Chamonix. Et là, il rencontre une très jeune fille qui n'a pas encore 18 ans, alors que lui en a 39. Il en tombe amoureux. La mère de la jeune fille ne consentant pas à cette relation, il l'enlève. Elle s'appelle Jeanne-Hélène. La mère les fait rechercher par la police et on les retrouve dans un hôtel de Nice. Mathilde finit par consentir au mariage de Max Linder avec Ninette. Le mariage lui-même est mal pris par l'entourage. C'est-à-dire qu'Armand Massard, le meilleur ami de Max, refuse d'être le témoin. Il se brouille plus ou moins avec Max à ce moment-là. Et assez vite, il semble que les relations se dégradent. Alors, il y a un premier événement dramatique. Max Linder continue à travailler. Il tourne un film à Vienne, qui sera le roi du cirque. Et la tentative de suicide a lieu en 1924.
Ce que disent beaucoup de personnes qui l'ont côtoyé dans les années 10, années 20, c'est que Max Linder était extrêmement secret. C'était quelqu'un d'assez taciturne, on a parfois utilisé le terme de dépressif, en tout cas très peu bavard, et donc justement rechignant à s'exprimer sur lui, à dire comment il s'est construit, ce qu'il ressentait, comment il travaillait, étant plutôt justement le plus souvent dans la représentation, même dans sa vie sociale, c'est-à-dire jouant, s'amusant, chantant, et en même temps disant à ses proches que justement ça n'est là qu'une image et que le plus souvent il est très triste, mais il donne le change.
Le roi du cirque est un film crépusculaire en fait. On ne le voit pas, mais quand on le sait, c'est tellement criant que c'est incroyable. En fait, Linder tire ses dernières cartouches, il est assez oublié, ses précédents films ont vraiment été des relatifs échecs, il a du mal dans sa vie personnelle, et la seule chose qui compte, c'est de continuer à être vivant et de continuer à être jeune. N'oublions pas que son épouse à l'époque avait 20 ans, et lui en avait 42, et il vieillissait, il n'était plus le Max Linder élégant du début, et ça se voit, voilà, ça se voit qu'il ne dort pas, ça se voit qu'il a passé des mauvais moments, et c'est sur le tournage du Roi du Cirque qu'il fait sa première tentative de suicide. C'est quand même incroyable d'imaginer qu'il va obliger sa femme à boire du Véronal, enfin le poison qu'on utilisait à l'époque pour ça, et lui aussi, alors qu'elle est enceinte de 5 mois. Enfin, c'est une folie d'imaginer ça. Mais la première tentative de suicide, elle a lieu là. Évidemment, on n'en parle pas. Imaginez que Max Linder ait tué son épouse sur le tournage et que le film sorte quand même en disant « Venez voir le film le plus rigolo du mec le plus rigolo ». C'est évidemment impossible. Donc tout ça est tout à fait caché. Et quand on regarde le film, il y a quelques plans, on se dit mais il a les traits creusés, on sent qu'il est il est en train d'arriver au bout quoi. Et il était au bout. C'est fini, la parade est passée. Et il le sait. Donc, il va tourner en Autriche pour le compte d'un producteur autrichien. Il a soi-disant des billes dans l'histoire, mais enfin bon, c'est très peu de choses. La réalité, c'est que Max Linder ne sait plus où il est, tellement il est rongé par ses obsessions, jusqu'à en arriver à ce dénouement terrible. Mais ça n'arrive pas comme ça par accident, un dénouement terrible de cet ordre-là. Il faut 2-3 ans, il faut littéralement devenir fou.
Et ça, vous le voyez dans le film alors ?
Oh ben, sur chaque plan de Max Linder, c'est évident, c'est plus le même homme.
Il y a toujours eu effectivement cette dimension tragique, comme si, en vivant toujours à l'intersection du réel et de l'imaginaire, du privé et du public, on finit par ne plus savoir dans quel monde on vit et de perdre un certain rapport au réel, ça c'est certain. Et chez Linder, cette dimension tragique, elle a toujours été présente. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait du sport avant, il a été souvent blessé, il a souvent eu des accidents, certains présentés comme mortels. Et il y a à la fois évidemment une part de publicité, de promotion, dont on a déjà parlé, ce côté un peu... comment dire, utilitaire de tout ce qui peut lui arriver, qui peut le faire qu'on produise des articles sur lui, certes, mais en même temps, il a réellement eu des accidents. Il avait par ailleurs des problèmes de santé, bon, comme beaucoup de personnes dans ces années-là, une santé fragile, et il la mettait également souvent en scène. De même, on a prétendu à un moment donné qu'il était mort en pleine guerre, il y a eu des articles sur le fait qu'il soit mort, ce qui n'était pas vrai. Donc vous voyez, cette dimension tragique, elle a toujours été présente, et c'est comme s'il y avait une dimension morbide, voire même mortifère, qui contraste fortement avec cet univers de joie, de divertissement, c'est un acteur comique. Mais il y a effectivement cette dimension, on pourrait dire, tragique.
Dans certains films, en fait, les épousailles sont extrêmement violentes, quoi. Voilà, il y a de l'enlèvement, c'est le cas aussi dans sa vie privée. Toujours dans le Roi du Cirque, il doit choisir entre les 3 ou 4 prétendantes sur photo. Quand il s'amuse à tirer sur les photos pour sélectionner celle qui sera la bonne, il se bande les yeux parce qu'il faut surtout pas que son regard soit influencé. Et dans l'entre-deux, une jeune femme apparaît sur laquelle il tire. Voilà, et bon, elle n'est juste blessée, et voilà, mais c'est très frappant qu'un an avant sa mort, un an avant qu'il ait assassiné sa femme, on ait ça dans le film.
Ça fait des mois que, voire plus d'un an que Max est malade, que Max a des crises de jalousie monstrueuses, qu'il a des accès de violence, que sa très jeune femme, Hélène, est fatiguée de le fuir. Il y a déjà eu une tentative en Suisse, une nuit, où il lui propose de prendre du Gardénal et pour mourir avec lui. Elle fait mine de le prendre, et lui le prend, et puis elle appelle tout de suite les secours et elle le sauve. Elle a à peine 20 ans, hein. Elle a fait une demande de divorce, il lui a demandé de la retirer, je crois qu'elle l'a retirée. Ils se sont mariés un an et demi avant, je crois. Ils ont un enfant qui s'appelle Maud.
Puis bon, il y a visiblement un moment de rupture totale où il a, comment dire, dit au revoir à tout le monde. C'est aussi ça, le mystère de ce drame, c'est qu'il était quasiment annoncé. Voilà, quand bien même les gens ne pouvaient sans doute pas imaginer le geste qui serait le sien. Mais en fait, il a démissionné de ses responsabilités voilà, pour transmettre le flambeau à quelqu'un d'autre. Il a interrompu une production qui était en cours sous prétexte de besoin de vacances. Et puis, voilà, terminé.
Max Linder rend son appartement. Il avait un appartement avenue Émile Deschanel. Il le rend. Il fait construire un hôtel particulier à Neuilly. Mais comme il n'est pas prêt, que ce qui a été fait ne lui plaît pas, ils vivent à l'hôtel, sa femme et lui vivent à l'hôtel. Ils ont laissé la petite fille en Suisse sous la garde d'une bonne d'enfants, notamment à l'hôtel Baltimore, avenue Kléber. Le personnel dira qu'on les voit toujours se chamailler, se disputer. En tout cas, le 30 octobre 1925, ils sortent dîner. Et il rentre le soir, et le lendemain matin, à 9h du matin, Max Linder téléphone à la réception pour dire qu'on ne les dérange pas. À 10h, Madame Peters, ne voyant pas sa fille, téléphone et puis vient à l'hôtel, Et elle demande au directeur de faire ouvrir la porte parce qu'on ne répond pas, évidemment. Donc on ouvre la porte et vers 11h30, on trouve Max et Ninette morts dans leur lit, le poignet gauche tranché par un rasoir qu'on retrouvera sur place, et avec des verres vides, des flacons de Véronal. Enfin, ils ont pris du Véronal.
Il faudrait remener l'enquête, c'est-à-dire que c'est une affaire qui a sidéré tout le monde au moment où ça s'est produit, mais ensuite abondamment commenté parce que derrière le double, enfin cet assassinat et suicide, il y a une suite judiciaire, parce qu'il y a une petite fille qui avait 18 mois au moment du drame, et deux familles qui se déchirent en fait, pour savoir qui va récupérer... je dirais l'héritage, parce qu'il y a une fortune aussi à la clé. Donc l'affaire Linder a défrayé la chronique pendant des années. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est ce que dit Maud Linder un peu sur la fin de sa vie. Parce que Maud Linder, qui a consacré sa vie entière à, on va dire, sauver l'œuvre de son père de l'oubli, finalement, il avait une place dans les histoires du cinéma, mais il est resté à cette place un peu grâce à elle, parce que les films de Linder ont été vus grâce à elle, avant tous les autres. Et en même temps, voilà, elle a passé sa vie à défendre l'œuvre de son père, tout en disant ce père qui a assassiné ma mère. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre du double lien, là, qui, moi, me fascine.
Le travail qu'on fait à l'école, qui est une recherche sur le rire, qu'est-ce qui fait rire ? À la fois dans le clown, à la fois dans le burlesque. Ce qui se retrouve de Max Linder, c'est le contretemps.
Paola Rizza, metteur en scène et professeur à l'école Lecoq.
C'est-à-dire que Max Linder est toujours à contretemps de ce qu'on lui demande. Donc il rentre dans le bureau et la première chose qu'il fait, évidemment, c'est trébucher. Il va pour s'asseoir, la chaise n'est pas en place. C'est le contretemps qui amène l'accident. Et tout le travail du burlesque et du clown se base sur les mêmes choses, c'est comment arrive l'accident et comment par l'accident un être humain montre ses fragilités, son désarroi et évidemment sa solitude. Il n'a pas les codes, il sait pas faire, il se trompe et du coup il nous permet de rire d'un dérisoire commun. De quelque chose que l'homme, tous les hommes portent et sentent fragile en soi et qu'on ne veut pas montrer. Évidemment, surtout on ne veut pas montrer l'endroit de désarroi et de fragilité, et certaines personnes prennent en charge de montrer ça aux autres pour les faire rire.
Le directeur arrive et lui dit vas-y, mets-toi là, ok, comme ça. Alors,
il a les genoux qui flanchent.
Ouais, regarde, c'est tout mouillé comme ça. C'est super. Alors, tu m'écoutes très bien. Alors,
il a les pieds de travers.
Tu m'écoutes, ça va, tout va bien.
Moi,
alors, mais ça va. Alors, tu vas. Il essaye de partir, le directeur.
Non, mais j'ai pas envie de lui. Regardez, je suis tout trempée. Il s'essuie les yeux. Comme un petit enfant, il le repousse.
Max, regarde. Alors, tu souris et tu regardes dans la caméra.
Ok, bon, bisous.
Tu fais un bisou avec la main.
Allez, bon, c'est bon, c'est fini là.
Max a perdu toute son élégance du début.
Oui, il est tout penaud et puis il est en colère et il se met en colère contre le réalisateur.
Fin.
Merci à la Radio Suisse Romande, l'équipe pédagogique et les élèves de l'école Jacques Lecoq, Paola Rizza, Stéphane-Olivier Bisson, Emmanuel Dreux, Serge Bromberg, Patrick Desilles, Laurent Leforestier et Laurent Guido. Chant Pauline Schill, lecture Pauline Schill, Olivier Martineau, prise de son Guillaume Leplège, Delphine Baudet, Stéphane Tornave, Éric Boisset, mixage Bruno Mourlan, documentation Anne-Lise Signoret, chargée de programme Sandrine Chaperon, coordination Emmanuel Laurentin, un documentaire de Pauline Mocor réalisé par Cécile Lafont.